Tout notre être, c'est entre tes mains que nous abandonnons, Seigneur. Nous implorons que tu parles au cœur de toutes et chacun, de toutes et chacune, Seigneur. Nous prions pour ton serviteur, le révérend Fesso, qui se tient au devant de ton peuple. Seigneur, utilise-les puissamment pour l'honneur et la gloire de ton saint nom. Nous prions, Seigneur, que ton Esprit Saint nous couvre tous. Nous prions toutes ces choses dans le nom puissant de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen.
Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Amen. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu qui nous permet ce jour de nous mettre devant vous pour sa parole. Nous allons ouvrir la Bible, parole de Dieu, dans le livre de Genèse, chapitre 3. Nous allons lire le premier verset jusqu'au septième. Nous pourrions parler du premier verset jusqu'au 22e, mais la lecture, nous allons seulement prendre les sept premiers versets. Nous allons aussi lire en Exode, chapitre 20, le troisième verset. Je commence la lecture à Genèse, chapitre 3, le premier verset jusqu'au septième. La parole de Dieu dit ce qui suit. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, « Vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, « Vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La femme vit que l'arbre était beau à manger, et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de ce fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent d'un ceinture. Je peux ajouter le 22e verset qui dit, l'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Je vous prie de faire ou de noter un parallélisme du verset 5 avec le verset 22. Je serai en train de lire Exode chapitre 20, le troisième verset. La parole de Dieu dit ceci, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et ceci, bien-aimé dans le Seigneur, qui est le thème général de notre séminaire tout au long de la semaine du baptême. Nous allons cogiter autour du thème « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Aujourd'hui, nous avons un sujet intitulé « Qui est Dieu ?» Dieu dans les débuts de l'humanité. Qui est Dieu ? Dieu dans les débuts de l'humanité. Avant que je ne dise autre chose, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons, au courant de la semaine, pas parler de la part de Dieu seulement, mais nous allons aussi parler de Dieu. Nous parlons de la part de Dieu, mais nous allons aussi parler de Dieu. Dieu invisible, comment un être visible peut s'hasarder de parler de lui? Il est toujours difficile et d'ailleurs impossible de parler de Dieu tel qu'il est, nous qui sommes ses créatures. Mais il a mis à notre disposition les Écritures. Il a mis à notre disposition la création à travers lesquelles il se révèle en nous. Et donc, tout ce dont nous allons parler de Dieu, nous allons tirer cela de sa propre parole, mais aussi de sa créature. C'est pourquoi je vais vous demander de me suivre très attentivement pour ne pas mal interpréter ce que je vais dire. Je vais vous demander d'être attentif parce qu'il est possible que je dise des choses contraires à ce que vous croyez depuis que vous avez cru. Je vais vous demander, pour bien comprendre, de suivre les enseignements au courant de la semaine. Parce qu'il est possible qu'aujourd'hui, vous sortiez d'ici sans rien comprendre. Alors, c'est la raison pour laquelle je vous demande d'être attentif et de surtout, si vous avez commencé les enseignements, il faut aller jusqu'au bout pour bien comprendre. Nous venons de lire la parole de Dieu en Genèse chapitre 3. Ce chapitre parle de la chute de l'homme. L'homme qui a été créé sans son avis. Avant le chapitre 3, ou avant que l'homme ne tombe dans le péché, Dieu l'a créé dans sa souveraineté. À Genèse 1, le verset 26 jusqu'à 31, Dieu dit lui-même, « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. » Dieu a créé l'homme, il créa l'homme et la femme à son image, sans demander l'avis de l'homme. Et même sans l'avoir demandé son avis, Dieu l'a béni. Il dit, il faut que tu sois fécond. Il lui a donné la nourriture. Il lui a même ordonné de dominer toute autre créature. Tout ça, dans sa souveraineté, Dieu dit, c'est très bon. Je m'attendais que ce soit l'homme lui-même qui dise, en tout cas, c'est très bon. Mais c'est Dieu, il le dit, en tout cas, c'est très bon. Sans l'avis de celui à qui on dit, c'est très bon. Deuxième chose, Dieu a donné un ordre à cet homme. Jusque-là, l'homme n'a pas encore parlé. Dieu lui donne l'ordre. Il dit, c'est à Genèse 2, 16-17. Tu pourras manger de tout ce qui est dans le jardin, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu mourras. Jusque-là, c'est Dieu qui a la parole. C'est un grand monopoliseur de la parole qui est là. Il y a ici, avec ce verset, une sorte d'alliance. Une alliance que Dieu conclut avec l'homme, pourtant à qui il ne donne pas la parole. Dans l'alliance que nous pouvons faire, vous pouvez avoir une alliance égale où les deux partenaires ont le même droit et le même devoir. Il peut y avoir aussi une alliance inégale où il y a celui qui va donner les ordres. Lui, il peut tout simplement dire « Je te donne ma promesse, je te donne ma parole. » Mais celui qui va te suivre pour voir comment tu vas vivre selon cette alliance-là. Et c'est cette alliance qui est inégale que Dieu conclut avec l'homme dans le jardin d'Éden. Tu pourras manger de tout, sauf l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Si tu en manges, tu vas mourir. Dans cette alliance, Dieu est redoutable. Celui qui a donné la vie, il prononce aussi une parole de la mort. La première parole qui est sortie de la bouche d'Adam, parce que même pour former Ève, Dieu n'a pas demandé la vie d'Adam. Il s'est dit tout simplement, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Celui qui sent ce besoin-là. Et il s'est dit, je vais te faire une femme. La première parole qui sort de la bouche d'Adam, c'est une parole, il s'adresse à lui-même, c'est une parole d'émotion. Une parole d'émotion qui dit, voici cette fois-ci l'os de mes os, la chair de ma chair. C'était la première parole qui est sortie de la bouche d'Adam. On pouvait croire que la première parole qui sort de la bouche d'Adam serait de remercier Dieu de tout ce qu'il vient de faire. Il ne l'a pas fait. Il n'a pas aussi reconnu, il n'a pas reconnu Dieu dans ce qu'il vient d'apprécier. La deuxième parole sortie de la bouche d'Adam, c'était la conséquence du désastre. La deuxième parole, c'était « J'ai eu peur, je me suis caché, car je suis nu. » Ici, il y a un danger. C'est à vous de savoir, parce que souvent nous prêchons, nous disons, nous devons être comme Dieu. Nous devons être semblables à Dieu. Dieu est venu poser la question à Adam, sa créature. Où es-tu? Adam dit, j'ai eu peur. C'était presque la première fois que Dieu donne à l'homme l'occasion de parler. Et l'homme dit, j'ai eu peur, je me suis caché car je suis nu. Ceci était comportement des pères qui ne donnent que des ordres à ses enfants sans demander leur avis. Le jour où l'enfant va s'adresser à son père ou à sa mère, c'est le jour où il va se retrouver déjà nu. Chers parents qui sommes ici, ne permettons pas que nos enfants s'adressent seulement à nous quand ils sauront qu'ils sont nus. C'est un comportement de Dieu, mais est-ce qu'il faut, il faut l'éviter? Il faut l'éviter ou il faut l'imiter? Je ne sais pas. C'est pourquoi j'ai dit, il faut comprendre comme il faut. Alors, quelle est l'image de Dieu dans la chute de l'homme? Le verset 1 à 7 que nous avons lu. Si vous lisez le premier verset, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Si vous lisez le chapitre 2, le verset 16 et 17, L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Est-ce qu'il y avait la présence du diable là-bas? Le diable n'était pas là lorsque Dieu a donné l'ordre à la femme. Non, à l'homme, je m'excuse. Mais le verset 3 de Genèse dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Comment les diables avaient su que Dieu avait défendu? Ce sont des questions qu'on se pose. La femme, audacieusement, elle répond. Et elle corrige même le diable. Au verset 2, la femme répondit au serpent. Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Le serpent avait demandé, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin? La femme ajoute, vous ne toucherez pas. La femme a ajouté, ici, il y a manger et il y a toucher. La femme a ajouté. C'est de ce verbe-là qui a été ajouté par la femme que le serpent a répondu et a donné sa version des faits. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux connaissant les biens et le mal. » Lorsque le serpent nous connaît, il sait que nous connaissons, nous voulons lui montrer que nous connaissons même plus que lui, à partir même de notre comportement, à partir même de nos paroles, nous pouvons le pousser à continuer à aller de l'avant pour qu'il atteigne son objectif. La femme, finalement, elle a été convaincue. Elle a été convaincue par le diable. La Bible dit, elle a vu que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Quand la Bible dit « bon à manger », si vous lisez 1 Jean chapitre 2, verset 16, il y a ici la question de la convoitise de la chair. La femme vit que l'arbre était bon à manger. C'est la convoitise de la chair. Le diable est capable de faire naître quelque chose qui n'était pas en toi. Il le fait naître et tu vas voir ses fruits. Agréable à la vue. Ces gens-là passaient là chaque jour. Ces fruits-là n'étaient jamais bons à manger. Ces fruits-là n'étaient jamais agréables à la vue. Ces fruits-là n'étaient jamais précieux pour ouvrir l'intelligence. Mais le diable arrive et il permet que cela naisse dans l'intelligence de la femme. Et quand on dit précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est l'orgueil de la vie. Ici, c'est le désir d'être comme Dieu. Ouvrir l'intelligence, car c'est Dieu qui est le super intelligent. Ceci signifie que le péché de l'homme peut même pas résider dans le fait de manger le fruit, parce que manger seulement le fruit, ça n'a pas de problème. Le problème ici, c'était l'indépendance. Quand Dieu a créé, il crée pour qu'il soit le centre de la création. Il fallait que toutes les créatures puissent converger vers le centre qui est Dieu. Et c'est pourquoi cet arbre, selon le style de la Bible, cet arbre était au centre. À d'autres termes simples, le Seigneur voulait dire, tu es autorisé à faire tout ce que tu peux faire, mais n'arrive jamais au centre, ne prends jamais ma place. Le jour où tu prendras ma place, tu vas mourir. Ce qui signifie que l'indépendance, lorsque vous avez été créé par un Dieu qui ne vous a pas demandé l'autorisation de vous créer, il a le dernier mot sur vous, sur votre vie, sur votre mort, c'est lui qui a le dernier mot, vous vous permettez de prendre sa place. Vous croyez que vous allez encore vivre? Je vous ai dit de faire un parallélisme, le verset 5 et le verset 22. Le verset 5 dit ceci. Mais Dieu sait que, ça c'est le diable qui parle, hein? Il dit à la femme, Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Dieu a confirmé cette parole du diable. Au verset 22, il a dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça, c'est grave. Le diable avait dit à la femme, Dieu savait que si vous en mangez, vous serez comme lui. Vous allez connaître le bien et le mal. Effectivement, la parole de Dieu a dit, quand la femme a pris le fruit, elle a donné à son mari qui était auprès d'elle, les yeux s'ouvrirent. Ils ont su qu'ils étaient nus. Avant cela, ils ne savaient pas qu'ils étaient nus. Les yeux s'ouvrirent, c'est-à-dire ils ont connu le bien et le mal. Et Dieu a dit au verset 22, voici que l'homme est devenu comme l'un de nous. Et le diable qui avait dit avant, il sait que si vous en mangez, vous allez devenir comme lui. Alors, est-ce que le diable avait menti? Je ne sais pas si le diable avait menti ou pas. Dieu avait dit, le jour où vous allez en manger, vous allez mourir. Le diable a dit, vous n'allez pas mourir. C'est là où il y a un petit problème. La mort dont on parle ici, c'est une mort spirituelle. Parce que quand la femme et l'homme ont pris le fruit, ils n'étaient pas morts physiquement. Quand on veut donner place au diable, possiblement tu peux voir les choses superficiellement sans les voir spirituellement. Peut-être le diable, lui, savait que ça sera directement la mort et c'est fini, on va enterrer. Mais la parole de Dieu, qui est fidèle, c'est que la relation qui existait entre l'homme et Dieu était brisée. Et c'était ça, la mort dont Dieu parlait ici. Il est mort, l'homme là est mort, même s'il était en train de respirer. Ce qui signifie que nous pouvons même être ici étant des cadavres aux yeux de Dieu. Parce que nous ne sommes pas en bonne relation avec Dieu. Quelqu'un avait chanté qu'il s'étonne pour voir comment un cadavre peut aussi aller au marché. Comment un cadavre peut chanter? Comment un cadavre peut faire ceci? C'est une mort spirituelle. Une mort spirituelle, pourquoi? Si vous lisez au verset 19, c'est à la sueur de ton front ou de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Lorsque nous lisons la Bible, peut-être il faut chaque fois la lire avec un esprit critique de voir les termes. Ici, ce n'est pas l'institution de la mort physique. Le péché de l'homme dans le jardin d'Éden, ce n'est pas ce péché-là qui est à l'origine de la mort physique de l'homme. Ce péché-là est à l'origine de la mort spirituelle. La mort physique de l'homme, elle a été donnée par Dieu lui-même à faisant l'homme de la poussière, une poussière qui un jour va revenir à la poussière. C'est pourquoi au verset 19, il dit, quand il donne les punitions à l'homme, il dit, c'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre. D'où tu as été pris. Il y a le mot jusqu'à ce que, c'est-à-dire depuis ta naissance, jusqu'à ce que tu retournes à la poussière, alors voici les conséquences qui vont venir. Ce n'est pas parce que tu as péché que tu retourneras à la poussière, mais tu retourneras à la poussière parce que tu as été tiré de la poussière. Ça, je peux vous poser la question, vous n'êtes pas obligé de répondre. Est-ce qu'il peut y avoir une conséquence positive du péché de l'homme dans le jardin d'Éden? Une conséquence positive. Quand moi je lisais, j'ai trouvé une conséquence positive. La conséquence positive, c'est que avant le péché, l'homme n'avait pas la conscience. Il ne savait pas qu'il est nu. C'est après le péché qu'il a su, je suis nu, il faut que je me cache. Quand nous avons souvent des enfants à la maison, il y a un âge où la femme peut venir devant vous sans les habits. Et vous vous posez la question, donc on devient une personne lorsque la conscience arrive. À partir de ces jours, c'est-à-dire c'est à cause de ces péchés-là que nous nous retrouvons ici, étant tous habillés. S'il n'y avait pas ce péché, on serait ici tous sans habillement. Je voudrais enfin parler un peu de Dieu dans sa relation avec Job et Jésus. Nous sommes en train de parler de Dieu. Qui est Dieu? Le Dieu dans la création de l'homme, comment il se comporte. Si vous lisez Job chapitre 1er, de 1 à 10, ou chapitre 1er, de 10 à 22, là vous verrez que il y a un conseil qui se tient au ciel. Un conseil qui se tient au ciel, la Bible dit, le diable aussi vient. Lui aussi, il vient participer au conseil qui est au ciel. Il vient participer à ce conseil-là. Si je peux marier ce verset à Matthieu 4 et à 11, Jésus est conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Ici, il y a un objectif. L'Esprit transporte Jésus. Il l'amène dans le désert pour être tenté. Ça veut dire, l'Esprit connaît pourquoi il amène Jésus dans le désert. Pour qu'il soit tenté. Tenté par qui? Par le diable. Est-ce que c'est une relation entre Dieu et le diable? Ou bien c'est une coïncidence? C'est Dieu-là qui se comporte de cette façon-là. C'est celui qui nous dit que nous n'avons pas droit d'adorer d'autres dieux. Il dit en Exode, nous allons lire ça au courant de la semaine, qu'il est un Dieu jaloux. Il ne permet jamais. Celui qui est capable de faire quelque chose dans votre vie sans votre avis, possiblement qu'à un moment donné vous pouvez, il peut vous arriver un moment où vous allez dire, en tout cas, je ne fais pas ceci, je fais ceci. Mais ce Dieu-là, la Bible dit qu'il est jaloux, il ne le permettra jamais. Il ne va pas le permettre. Il vit sa souveraineté. La souveraineté de Dieu l'amène à avoir un comportement qu'il ne peut pas permettre dans notre vie, nous, ces créatures. Nous savons que la jalousie, c'est un péché. Mais la Bible dit que Dieu est jaloux. La Bible dit que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous devons nous aimer les uns les autres. Et la Bible ne dit pas que Dieu nous a aimés comme il s'aime lui-même. C'est à nous de nous aimer les uns les autres. Mais lui, dans son amour, il est absolu là-bas. Et c'est lui qui décide s'il va nous aimer ou pas. Pour finir, si vous voulez retenir quelque chose de ce que nous venons d'apprendre maintenant, la première chose, retenez que Dieu, le créateur de tout, il est libre de s'adresser à toutes ses créatures. Il ne faut pas dire ça, Non. Dans sa souveraineté, il est libre. Il peut même parler à ce panier-là. Il peut même parler à un arbre. Et si vous le trouvez en train de parler à un arbre, il ne faut pas vous étonner. Deuxième chose à retenir, l'alliance que nous avons avec Dieu. Nous devons savoir que nous l'avons avec un créateur et décideur absolu qui n'a pas nécessairement besoin de notre avis pour quelque chose dans notre vie. Et d'ailleurs, nous devons savoir que c'est lui la source de notre vie. Notre vie lui appartient. Même celui qui a décidé de notre salut, ce n'est pas nous qui lui avons demandé de nous sauver lorsque nous avons péché dans le jardin d'Éden. Il a décidé lui-même. Et pour que nous ayons ce salut-là, écoutez bien, c'est Dieu-là comment il se comporte. Il a accepté que son fils unique soit crucifié et qu'il trouve la mort. Souvent, nous sommes des chrétiens et nous avons la foi que Dieu nous aime. Et c'est à cause de son amour qu'il a donné son fils. Ça, ce sont nos yeux de la foi. Mais de l'autre côté, nous devons savoir qu'il y a une dose de cruauté dans cette décision que Dieu avait faite. Si toi, tu es un homme ici, tu prends ton fils, tu l'égorges et tu expliques que c'est parce que j'ai aimé, j'ai fait ceci, que j'ai égorgé ce fils-là. Personne ne va te comprendre. Mais Dieu a été capable de le faire. Ça, c'est Dieu ici qui est capable de tuer son fils. Et toi, maintenant, qu'est-ce qu'il peut te faire? Ce qui signifie qu'il n'est pas difficile à Dieu de prendre une quelconque décision sur vous, n'importe quand et n'importe comment. Il est libre de prendre toute décision qu'il peut prendre. Je vous invite pour que nous puissions aller ensemble au courant de la semaine, pour que nous puissions maintenant comprendre. Que le Seigneur nous bénisse.